Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de musique classique faite à la main et pour les oreilles. Bonsoir. Alors cette semaine, la preuve par Z déroule le tapis rouge aux clés de l'orchestre. Ce programme qui depuis plus de 15 ans révèle tous les secrets des chefs-d'œuvre du répertoire symphonique. Aujourd'hui, c'est Mamerlois de Maurice Ravel que nous allons explorer ensemble. Et je dois dire que je suis assez ému puisque c'est précisément avec cette œuvre que j'avais pensé débuter voici une quinzaine d'années la série des clés de l'orchestre. Ce qui à l'époque n'avait pas été possible, je ne sais plus du tout pourquoi. C'est que j'avais souvent eu l'occasion de tenir la partie de Célestat de Mamerlois au sein de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, comme par exemple au célèbre Proms de Londres, sous la direction de Marek Janowski. Moi, c'était il y a plus de 20 ans, autant dire au siècle dernier. Alors on a souvent dit de Maurice Ravel qu'il n'avait jamais quitté le pays de l'enfance. C'est donc là que je compte vous emmener maintenant, avec tous les musiciens du Philhar et le chef d'orchestre, Fabien Gabel. Nous voici dans le pays des contes de Mamerlois. Un pays peuplé de fées, d'ogres, d'animaux et de sorcières, de magie noire et de magie blanche. Il était une fois... Les premières mesures de la pavane de la Belle au bois dormant, la musique du sommeil éternel en quelque sorte. Alors cette pièce a une histoire un peu particulière puisque Ravel l'a écrite pour deux petits-enfants, Mimi et Jean Godebski. Ravel était un familier de la famille Godebski, il était même considéré comme un membre de cette famille et comme les deux petits-enfants faisaient du piano, il a l'idée un jour de leur écrire une pièce pour piano à quatre mains pour qu'ils puissent ensemble jouer cette fameuse pavane de la Belle au bois dormant. Alors c'est très émouvant évidemment d'imaginer ces deux petits-enfants, la sœur aînée, Mimi qui a 8 ans et le petit garçon, c'est Jean qui a 6 ans, découvrant qu'on a écrit une pièce de piano, une pièce de musique rien que pour eux, écrite par pas n'importe qui, par Maurice Ravel, qui commence déjà à être assez célèbre. Et ce que je vous propose, avant que nous plongions dans l'orchestre, c'est que vous entendiez la version d'origine de la pièce. Et pour cela, je demande à Catherine, la pianiste de l'orchestre, si elle veut bien me rejoindre maintenant pour qu'ensemble nous puissions jouer aux enfants sages devant le piano. Merci beaucoup Catherine. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque peu de temps après, Ravel a l'idée d'écrire un véritable cycle de pièces pour piano, toujours à quatre mains, et toujours en s'inspirant de ces histoires merveilleuses dont les enfants raffolent avant de se coucher. Et c'est ainsi que naît le cycle de Ma Merlois, puisque c'est le titre que donne Ravel à cette suite pour piano, et qu'on décide, en 1910, que la pièce serait donnée en première audition salle Gaveau, mais par des enfants. Sauf que Mimi et Jean, c'est un peu difficile pour eux. La première, ça allait, la pavane que vous venez d'entendre, mais les autres pièces du cycle sont trop difficiles techniquement pour ces deux enfants. Donc on fait appel à deux jeunes filles de 11 et 14 ans, dont une fera parler d'elle puisqu'elle va devenir musicienne, Jeanne Leleu. Elle étudie le piano au Conservatoire de Paris, elle compose et elle obtiendra à 24 ans le premier Grand Prix de Rome. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à ce concert, après l'audition des cinq pièces de Ma Merlois à quatre mains par ces deux jeunes filles, Ravel monte lui-même sur scène pour faire entendre une pièce inédite pour piano de Debussy. Alors je ne vous cache pas que j'aurais bien aimé y être à ce concert, mais ce qui est drôle, c'est que l'histoire de ces pièces de Ma Merlois n'est toujours pas terminée, puisque l'année suivante, en 1911, Ravel décide d'orchestrer ces cinq pièces. C'est quelque chose que fait assez souvent Ravel. Ravel aime bien écrire de la musique d'abord version piano, puis il l'orchestre. Tenez, si vous pensez par exemple à la pavane pour une infante défunte, ou le tombeau de Couperin, ou les valses nobles et sentimentales, il a existé d'abord une version pour piano, et puis, dans un deuxième temps, Ravel l'a orchestré. La plupart du temps, quand vous allez au concert, vous écoutez l'une des deux versions. Si vous allez écouter un récital pour piano, eh bien vous pourrez écouter, je ne sais pas moi, le tombeau de Couperin, ou les valses nobles et sentimentales, version piano. Si vous allez à un concert d'orchestre, vous écoutez la version d'orchestre. Et aujourd'hui, je vous propose l'expérience d'écouter à la suite la version pianistique, nous venons de l'entendre, de cette pavane, et tout de suite après, la version pour orchestre. Vous allez voir, c'est un petit peu comme si on passait du noir et blanc à la couleur. Alors, puisqu'on vient d'entendre successivement la pavane de La Belle au bois dormant, version piano et version orchestre, peut-être qu'on peut parler de l'orchestration, qui est un art assez mystérieux, un art subtil, minutieux. Tenez, par exemple, une question qui se pose souvent à un orchestrateur, c'est de transformer dans l'orchestre ce qui se passe quand on joue au piano. En effet, si je prends par exemple, tenez cette phrase. Vous allez me dire, c'est une mélodie. C'est juste. Mais écoutez bien ce qui se passe. Le piano est un instrument de percussion. Vous êtes d'accord? Les marteaux frappent sur les cordes. Donc, attaque et en même temps, résonance. Eh bien, à l'orchestre, voici ce qu'a imaginé Ravel pour reconstituer ce couple attaque-résonance. Pour l'attaque, les pizzicato des altos. Thank you. Pour la résonance, Ravel choisit le corps solo en sourdine. Merci Antoine. Et maintenant, les deux en même temps, l'alliage du cor en sourdine et des pizzicato d'alto. Merci beaucoup. Autre petit truc d'orchestration, lorsqu'une phrase revient à l'identique, eh bien on peut changer sa couleur, on peut changer son instrumentation. Tenez par exemple la deuxième mélodie de notre pavane. Nous l'écoutons dans une première version par la flûte dans l'aigu, accompagnée par le hautbois, la harpe, les contrebasses qui font le mi grave. Mais lorsque cette phrase revient à la fin de la pièce, pour conclure la pièce, cette fois-ci, elle a une couleur toute différente, ce sont toutes les cordes en sourdine. Quelle beauté, avec quelques gouttes de harpe qui ponctuent cette sonorité très particulière parce qu'il y a cette petite pièce qu'on appelle la sourdine, qu'on met sur le chevalet et qui va atténuer la vibration des cordes. On a vraiment l'impression de la musique du sommeil. Et d'ailleurs, peut-être qu'il faut maintenant réfléchir à la manière dont Ravel s'y prend pour écrire une pièce aussi brève et qui nous donne l'impression que ça fait peut-être 100 ans qu'on est endormi, qu'on écoute cette musique. Je crois qu'il y a déjà quelque chose du côté de la mélodie. En effet, dans cette pavane, nous écoutons successivement trois mélodies et elles sont toutes faites de la même manière, c'est-à-dire qu'elles font entendre un petit dessin et que tout de suite après, Ravel le répète. Tenez, la première mélodie, qui était jouée par la flûte, eh bien, tout de suite, on répète. Et ce n'est que la troisième fois qu'on va changer. Même chose pour la seconde mélodie, à la flûte dans l'aigu. On répète le dessin. Et ce n'est que la troisième fois qu'on change. De la sorte, cette mélodie, grâce à ce côté comme si elle tournait en rond, nous donne l'impression d'une mélodie qui est jouée depuis des années, qui va continuer à être jouée pendant des années. Un dernier exemple avec la troisième mélodie. On répète. Et on répète encore, mais comme c'est la troisième fois, on peut aller ailleurs. Il y a autre chose aussi qui me semble donner l'impression de l'écoulement immuable du temps, c'est-à-dire que rien ne va jamais changer. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé des pizzicato pour au moment où on parlait du couple attaque-résonance pour l'orchestration. Eh bien, ces pizzicato, ton, 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 ils reviennent tout le temps dans la pavane et j'ai l'impression qu'ils figurent l'écoulement des secondes. Vous voyez, la pièce fait 20 mesures, 20 mesures à 4 temps, ça fait donc 80 temps, chaque temps une seconde, 80 secondes de sommeil et de temps suspendu. La seconde pièce de Mamerlois s'intitule « Le Petit Poucet ». Le Petit Poucet, comme La Belle au Bois Dormant, c'est un conte de Charles Perrault. Alors Charles Perrault a écrit les contes de Mamerlois à la fin du XVIIe siècle. Et il faut savoir que Mamerlois, c'est un personnage fictif. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'appelait réellement Mamerlois. Mamerlois, c'est la paysanne, la campagnarde, c'est la grand-mère qui raconte des histoires. Et il y avait plusieurs personnes qui écrivaient des contes de Mamerlois. Et ils sont assez à la mode en ce début du XXe siècle, qui est un moment où on aime bien tout ce qui est du côté de l'ailleurs, du jadis, du merveilleux. Et d'ailleurs, nous venons d'écouter la pavane de La Belle au Bois Dormant, mais le thème est vraiment à la mode à ce moment-là. 20 ans plus tôt, par exemple, le compositeur russe Tchaïkovski a écrit son célèbre ballet, La Belle au Bois Dormant. Et 10 ans après Ravel, le compositeur italien Respighi va écrire un opéra entier sur l'histoire de La Belle au Bois Dormant. Mais penchons-nous maintenant sur l'histoire du Petit Poucet, qui est aussi un des contes vraiment les plus fameux de Perrault. Et on en connaît tous à peu près l'histoire. Ce bûcheron qui est tellement pauvre qu'il décide d'abandonner ses 7 enfants dans la forêt. Alors le Petit Poucet est malin, il sème des petites miettes de pain de son goûter parce qu'il se dit comme ça je vais pouvoir retrouver mon chemin, mais vous connaissez la suite malheureusement, les oiseaux mangent les miettes de pain et le Petit Poucet se retrouve complètement perdu dans cette forêt. Ce qui m'intéresse dans cette seconde pièce, c'est que j'ai vraiment l'impression que Ravel a voulu se servir de la musique pour nous raconter l'histoire. Tenez, par exemple, au tout début, donc le Petit Poucet est perdu et donc il essaye plusieurs chemins les uns après les autres dans la forêt. Eh bien, Ravel a une idée formidable, c'est qu'il fait entendre des gammes et chaque gamme comprend un peu plus de notes que la précédente. D'abord 3 notes. Ah zut, ça ne marche pas, c'est un chemin qui ne mène nulle part. Alors, maintenant 7 notes. Bah, c'est une fausse route aussi, alors on recommence, une nouvelle gamme qui cette fois-ci va faire 8 notes. Ça ne marche toujours pas, encore un dernier chemin, celui-là il fait 10 notes. Et on a vraiment en musique le Petit Poucet qui cherche à sortir de cette maudite forêt. Mais on l'écoute tout de suite par l'orchestre, ce sont les violons qui jouent ces chemins essayés les uns après les autres. Maintenant, Ravel essaye, me semble-t-il, d'exprimer les sentiments du Petit Poucet. D'abord, son sentiment de solitude. Alors, son sentiment de solitude, il exprime par une très longue et belle mélodie. Et pour cette mélodie, les instruments avant vont se relayer. Ça commence par le hautbois. Du hautbois d'Olivier, nous passons au cor anglais de Stéphane. Du cor anglais de Stéphane, nous passons à la clarinette de Jérôme. De la clarinette de Jérôme à la flûte de Mathilde. Les 4 instrumentistes ont, en quelque sorte, donné ce sentiment de la solitude du Petit Poucet. Alors, je précise au passage, quand j'ai nommé le cor anglais, que le cor anglais n'est pas du tout comme un cor, ce n'est pas un instrument de la famille des cuivres, c'est un instrument de la famille des bois, c'est en quelque sorte un hautbois grave. Merci beaucoup. Peu de temps après, nous allons entendre, me semble-t-il, le désespoir du Petit Poucet. Ce n'est pas souvent que Ravel se laisse aller à un petit élan romantique, parce que Ravel, c'est plutôt le musicien de la beauté, de la nature, de la danse. Mais là, on a vraiment une petite bouffée romantique avec ce désespoir du Petit Poucet. C'est drôle, en écoutant tout de suite l'envolée des cordes, je pensais à un compositeur contemporain de Ravel, le compositeur italien d'opéra Puccini, surtout quand ça fait... Alors il y a un autre passage que j'adore, c'est le moment où Ravel incarne en musique la forêt, le mystère de la forêt, cette forêt mystérieuse et enchantée. Écoutons. J'ai presque l'impression de ressentir la pénombre, l'odeur de la mousse, et puis les oiseaux. Vous avez reconnu tous les oiseaux? Ça a commencé par le violon, c'était Virginie qui faisait, vous savez, la mésange, 8, 8, 8. Et puis tout de suite après, on a eu le pinson au piccolo, c'était Anne-Sophie. Oh, j'adore, trotot, trotot. Après, ben, nous avons eu, oh, celui-là. Je ne vous dis pas de quel oiseau il s'agit, je suis sûr que vous allez le reconnaître, à la flûte. Merci Mathilde. Le coucou d'ailleurs, on l'avait déjà eu, pour ceux d'entre vous qui connaissent, dans le mouvement lent de la symphonie pastorale de Beethoven, mais je crois que c'était à la clarinette. Ah, et puis, il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est les deux petits verdiers, Marie-Laurence et Rachel. Mais oui, les petits verdiers, vous ne connaissez pas, ça fait même pas 15 cm. C'est un petit passereau couleur jaune-vert. Enfin, pour les femelles, hein, parce que les mâles sont moins intéressants pour la couleur, ils sont un peu plus grisailleux. Tenez, on réécoute maintenant que vous avez détaillé chaque oiseau, que vous les avez dans l'oreille, on réécoute l'entrée dans la forêt mystérieuse. Et à la toute fin de la pièce, pour montrer que le petit pousset, à force de chercher, ben en fait, il a tourné en rond, il est revenu au point de départ, nous réentendons, vous rappelez, les gammes de plus en plus longues aux cordes. Et sur les gammes des violons s'est posé le hautbois d'olivier. On a cru qu'il allait refaire entendre la longue mélodie du début, mais non, il n'a fait entendre que les quatre premières notes, comme s'il nous disait « Je suis perdu ». Je vous propose d'écouter d'un bout à l'autre notre petit pousset, deuxième pièce de la suite « Ma mère loi » de Ravel. Avec la troisième pièce, nous passons de Perrault à Madame d'Aunois, qui est l'autre grande conteuse de la fin du XVIIe siècle. La pièce s'intitule « L'Aidronette, impératrice des pagodes ». Et ça ne m'étonne pas que Ravel l'ait choisie, parce que Ravel est très friand d'exotisme. J'ai l'impression que, tout au cours de sa vie, Ravel a eu successivement recours à trois types d'exotisme. D'abord, tout ce qui est espagnol, je pense par exemple au boléro ou à la rhapsodie espagnole pour orchestre, mais également à tout ce qui nous vient des prémices du jazz, comme le concerto pour la main gauche ou le blues de la sonate pour violon et piano. Et enfin, tout ce qui est oriental, hein, c'est très à la mode à l'époque, il n'y a pas un salon bourgeois dans lequel on ne trouve pas une vitrine avec plein de petits bibelots chinois. Et cette laidronette impératrice des pagodes s'ouvre sur un merveilleux camaïeu d'orchestre qui fait entendre vraiment, pour moi, tous les parfums de l'Orient. Alors, en dehors de l'orchestration, ce qui fait particulièrement oriental, c'est le fait que la musique que nous venons d'entendre est écrite avec un mode pentatonique. Qu'est-ce que ça veut dire un mode pentatonique ? Eh bien, ça veut dire que c'est un mode qui ne comprend que cinq notes. Vous savez, dans les musiques plutôt occidentales, nous utilisons des modes de sept notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Que ce soit le majeur ou le mineur, c'est toujours sept notes. Tandis que dans les musiques orientales et aussi une grande partie des musiques africaines, les modes font toujours cinq notes. Là, dans ce que nous venons d'entendre, nous avons toujours 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 notes. Alors ça change tout, parce que l'oreille tout de suite perçoit une différence immédiate, même si on ne connaît pas l'existence des 7 notes d'un côté et des 5 de l'autre. Tenez, pour refaire un petit jeu de comparaison, si je vous jouais par exemple Frère Jacques, mais version, j'allais dire, normale, c'est-à-dire avec une gamme diatonique, une gamme de 7 notes, ça fait... Maintenant, je transpose mon frère Jacques sur les touches noires, donc sur un mode uniquement pentatonique. Parce que pour ceux d'entre vous qui ont un piano, si vous ne jouez que les touches noires du piano, ça fait exactement un mode pentatonique. Et ça donne donc, par exemple... Frère Jacques, version chinoise. Mais il n'y a pas que le goût pour les petits bibelots chinois qui anime Ravel ou son goût de l'exotisme. Il y a aussi un événement qui a marqué sa vie de jeune adolescent, c'est l'exposition universelle de 1889. C'est le centenaire de la Révolution française et il y a une gigantesque exposition universelle à Paris avec des tas de stands, des tas d'expositions de tous les pays, avec des spectacles de théâtre, de musique, avec de la peinture, avec des constructions nouvelles. C'est d'ailleurs à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 qu'on construit la Tour Eiffel. Et tous les artistes parisiens et même d'ailleurs vont visiter cette exposition, Debussy et puis le jeune Ravel qui a 14 ans et qui est fasciné par les musiques de gamelan qu'il entend dans le stand de l'Indonésie. Vous savez, le gamelan, ce sont ces orchestres de percussion avec beaucoup de métal, d'instruments en cuivre, et qui servent à accompagner les spectacles de marionnettes, les spectacles de danse, les spectacles de théâtre. Il est absolument fasciné par ce qu'il entend. Et vous savez, on a souvent l'impression que le gamelan, c'est uniquement un orchestre de percussion. Mais en fait, il y a plusieurs types de gamelan. plusieurs usages, ça dépend des régions, ça dépend aussi si c'est pour accompagner tel ou tel spectacle ou pour telle ou telle cérémonie. Donc il y a le gamelan composé uniquement de gongs et de lames de métal, mais il y a aussi des gamelans avec des instruments avant et notamment avec une petite flûte très acidulée que j'adore, qu'on appelle le souling. Et c'est ce souling qui a imité Ravel dans le début que vous venez d'entendre, hein, c'était le piccolo qui imitait la sonorité du souling. Et peut-être on peut réécouter ce solo de piccolo joué par Anne-Sophie. Merci beaucoup Anne-Sophie. Un autre instrument avant que j'aime beaucoup, qui a une sonorité un peu nasillarde, qui est très étrange à regarder, il y a une sorte de masque noir et puis il y a l'instrument qui sort de ce masque, c'est le selompret, c'est une sorte de hautbois indonésien et ça on l'entend juste après dans la séquence d'après de notre laidronette impératrice des pagodes. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir, d'écouter un orchestre de gamelan, mais il y a toujours un moment qui est fascinant où la musique se met en quelque sorte à tourbillonner dans un côté un peu vertigineux, de plus en plus rapidement, et on se demande toujours comment ils font pour être ensemble, parce qu'il n'y a pas de chef d'orchestre. Oui Fabien, ça va te décevoir, mais je t'assure, il n'y a pas de chef d'orchestre dans les ensembles de gamelan, et pourtant en fait, il y a quelqu'un qui dirige, si on regarde un peu, il fait des petits hochements de tête pour arriver à ce que tout le monde soit ensemble, et je vous propose d'écouter la manière dont Ravel a transposé pour l'orchestre ce véritable tourbillon de gamelan. Et c'est la seconde partie de la pièce, le moment du bain de l'impératrice. Moi, j'appelle ça la cérémonie du bain parce que ça commence par quelques notes jouées à l'unisson par tout l'orchestre. Et vous savez, je vois ces gongs, vous savez, ces gongs à bulbes hein, qu'on joue assis hein, parce que ce sont des orchestres où presque tout le monde est assis. Les orchestres de gamelan et avec donc des maillots, on fait sonner chacun des gongs et j'imagine donc une espèce de pagode avec un rituel et la sonnerie du début de la cérémonie du bain de l'impératrice. Ces petits gongs à bulbes, on les appelle des bonang. Et vous avez remarqué que j'en ai profité pour me mettre devant un célestat. Mais oui, parce que à partir de maintenant, le célestat va devenir en quelque sorte l'instrument soliste de la pièce, comme un petit concerto en quelque sorte. Et il faut que je vous dise quelques mots sur cet instrument que j'adore et qui est vraiment un instrument magique. Alors d'abord, au moment où Ravel orchestre ses pièces de Mamerlois, donc en 1911, le célestat est un instrument tout récent. Il a été inventé à Paris par un Parisien, Monsieur Mustel, en 1886. Et c'est drôle parce qu'il a tout de suite intéressé aussi bien les compositeurs français que les compositeurs russes. En effet, juste au moment où Mustel invente son célestat, Tchaïkovski était de passage à Paris. Tchaïkovski aimait beaucoup la France et il passait régulièrement par Paris, notamment pour renouveler sa garde-robe. Et Mustel, à force d'insister, de lui écrire, finit par obtenir la visite dans son atelier de Tchaïkovski, qui est tout de suite séduit par ce nouvel instrument et qui va l'utiliser très peu de temps après. On dit souvent que c'est le premier à l'avoir utilisé dans la danse de la fée dragée dans son ballet Casse-Noisette. Vous connaissez ce thème ? Oui, on l'entend dans je ne sais combien de publicités. Et c'est ainsi que, petit à petit, le célestat va devenir un instrument adoré donc par les compositeurs russes et français, parce que je vous ai dit qu'on dit que Tchaïkovski est le premier à l'avoir utilisé, mais à la vérité, c'est un compositeur français, Ernest Chausson, qui l'avait utilisé en premier, 2 ans avant Casse-Noisette, pour une musique de scène, je crois que c'était pour une représentation de La Tempête, d'après Shakespeare. Et alors, c'est vraiment un instrument magique, un instrument tout à fait merveilleux, qui nous emmène dans un monde enchanté, en quelque sorte. « Et cet instrument consiste en une série de marteaux qui frappent sur des petites tiges en métal. On n'est pas très loin de la technique des gamelans. Et alors, dans l'aigu, on dirait de petites clochettes, comme vous venez de le constater. Mais dans le grave, on a vraiment l'impression de retrouver la sonorité du gamelan. Donc, dans la partie centrale, dans la deuxième partie de notre pièce « L'aidronette impératrice des pagodes », eh bien, j'ai vraiment l'impression de suivre le bain de l'impératrice. Et il y a un passage que j'aime beaucoup avec superposition du thème du bain, si on peut dire, à la clarinette dans le grave, avec en canon tout de suite après les sonorités magiques du Célestat. Et alors, le Célestat dans l'orchestre, eh bien, vous voyez, c'est Catherine qui tout à l'heure était au piano avec moi et qui maintenant est derrière son Célestat, et c'est elle qui va dialoguer mystérieusement avec la mélodie sinueuse de la clarinette dans le grave. Et tout de suite après, superposition du thème de la clarinette, mais avec l'aigu du Célestin, on a vraiment les deux registres, le registre grave qui fait penser au gamelan et l'aigu qui fait petite clochette tintinabulante. Et c'est Catherine qui joue dans l'aigu le thème qui était joué tout à l'heure par le piccolo qui imitait le souligne. Donc, superposition du thème dans l'aigu de petite clochette avec toujours notre clarinette dans le grave. Et forcément, le fait qu'on entende le thème du début ramène la première partie. C'est un magnifique fondu enchaîné. On dirait presque une technique cinématographique. La manière dont Ravel ramène la musique animée et joyeuse du début de la pièce, mais on s'en rend à peine compte, ça vient petit à petit. Je pense que maintenant, on a tous envie d'écouter d'un bout à l'autre l'aidronette impératrice des pagodes. les merveilleuses sonorités orientales de l'aidronette impératrice des pagodes, le troisième des cinq mouvements de Mamerlois de Maurice Ravel. Et pour la première partie de cette clé de l'orchestre, nous étions bien sûr en compagnie de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Fabien Gabel. Nous continuerons la semaine prochaine de découvrir et d'explorer l'univers enchanté des contes de Mamerlois, mais puisqu'il nous reste encore un peu de temps avant la fin de l'émission, je vous propose d'en profiter pour faire un petit détour du côté de ces gamelans d'Indonésie qui avaient tant fasciné le jeune Ravel à l'exposition universelle de 1889. Qu'ils soient de Bali, de Java ou de Sunda, les gamelans me donnent toujours l'impression de grands carillons joyeux et tintinabulants dont les différents instruments forment comme une sorte de gigantesque piano à 30 mains. Chatoyant gamelan Selunding, typique de l'île de Bali, composé de 8 petits claviers à lame métallique, et l'on reste à chaque fois baba devant leur parfaite synchronisation, sans partition ni chef d'orchestre. Alors il faut savoir que chaque gamelan est unique, précieux, un véritable objet de patrimoine. Il est conçu et réalisé dans sa globalité, en une fois et par un même forgeron, puis accordé comme un tout. C'est donc un ensemble d'instruments permanents et indivisibles que font sonner des groupes éphémères de musiciens. Véritable instrument orchestre, il sert à jouer une musique essentiellement destinée aux cérémonies et aux rituels, accompagnant également la danse ou le théâtre. Voici par exemple un morceau utilisé dans les scènes d'action rapide du Wayang Kulit, le célèbre théâtre d'ombre indonésien avec marionnettes. Dans la seconde partie de la pièce, vous verrez que la pulsation devient nettement moins stable, comme si la musique suivait les événements, accélérant brusquement ou bien ralentissant. Thank you. Étonnante fluctuation de tempo dans ce gamelan de Java, la plus peuplée des îles d'Indonésie, puisqu'avec 150 millions d'habitants, elle regroupe plus de la moitié de la population d'un pays qui, je vous le rappelle, est tout de même le quatrième le plus peuplé du monde. C'est que les gamelans diffèrent sensiblement selon leur région d'origine. Les gamelans sundanais intègrent par exemple volontiers des instruments mélodiques, comme le suling, cette petite flûte acidulée que Ravel imite grâce au piccolo au tout début de L'Aidronette, impératrice des pagodes. Rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie de La Clé de l'Orchestre consacrée à Mamerlois de Maurice Ravel, toujours en compagnie de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Hein Weinfeld et préparée avec Théo Friconeau. À la semaine prochaine!